Salut, c'est Dardard.
C'est quoi ?
Dardard, c'est l'histoire d'une œuvre d'art.
De l'art ?
De l'art ?
J'adore !
Le 28 juillet, la liberté guidant le peuple est le témoignage qu'a laissé Eugène Delacroix de ce que l'on appellera les Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830, journées durant lesquelles le peuple de Paris combattit sur les barricades et renversa le roi Charles X. Un événement que le peintre phare du romantisme ne pouvait pas laisser passer. Ainsi qu'il le dira lui-même, « Si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle ». Et c'est ce qu'il fit avec l'imagination, l'exaltation, l'atmosphère qui lui était propre et qui ont fait de la liberté guidant le peuple, le symbole grandiose, 2,60 m sur 3,25 m tout de même, de l'élan romantique et révolutionnaire dans le monde entier. Enfin, presque dans le monde entier, car il est des états où ce tableau continue de déranger, et pas seulement pour des raisons politiques. En 1999, par exemple, la liberté guidant le peuple voyage vers le musée national de Tokyo à bord d'un avion spécial sur lequel on a imprimé sa photo. Et bien, lors d'une escale dans le golfe Persique, il est instamment demandé que les seins de la liberté soient masqués. En 2007, le gouvernement turc a exigé d'un éditeur qu'il retire la liberté guidant le peuple d'un manuel scolaire. Et dans 4 états des États-Unis, sa reproduction sur des étiquettes de bouteilles de bière a été jugée indécente et manquant de dignité, ce qui a suscité moult débats sur la liberté d'expression. Tout ceci est d'autant plus amusant 150 ou 200 ans plus tard qu'en France, quand le tableau de Delacroix fut présenté au public, en 1831, ce ne sont pas les seins de la liberté qui choquèrent les amateurs de peinture. Cela lui donnait un petit côté antiquité grecque du meilleur effet. Non, ce qu'on trouva vulgaire, c'est qu'elle avait du poil sous les bras.
Salut, c'est Dardard.
C'est quoi ?
C'est l'histoire d'une œuvre d'art.
De l'art.
De l'art.
J'adore.
Comme elle est sensuelle, cette belle endormie. Et quelle cambrure, quelle chute de rein. Peu importe que ce chef-d'œuvre de l'art romain du 2e siècle après Jésus-Christ soit, comme c'est probable, une copie d'un original grec sculpté 400 ans plus tôt. C'est un si beau marbre qu'en 1619, son propriétaire, le cardinal Scipion Borghese, demanda au plus grand sculpteur italien de son époque, le Bernin, de réaliser le matelas sur lequel repose la jeune femme. Enfin, je ne devrais pas dire la jeune femme, car regardez bien, elle a un sexe d'homme. Et oui, des seins de femme et un sexe d'homme, car il s'agit d'Hermaphrodite endormie. Vous connaissez l'histoire d'Hermaphrodite. Fils d'Hermès et d'Aphrodite, il repoussa les tentatives de séduction de la nymphe Salmacis. Celle-ci obtint alors de Poséidon que son corps et celui de son bien-aimé soient réunis pour toujours. Et le résultat, vous l'avez sous les yeux. Un être bisexué, à la fois mâle et femelle, dont l'ambiguïté est magnifiée par le contraste et la proximité entre la grâce féminine et la virilité masculine. Du reste, le mythe d'Hermaphrodite fascinait les Romains. On en a trouvé plusieurs représentations à Pompéi et continua d'inspirer les artistes, que ce soit Balzac ou Lautréamont. Le chevalier Déon, le célèbre espion de Louis XV, qui a réellement existé, fut soupçonné d'être hermaphrodite. De nos jours, ce sont plutôt les sportives, que ce soit la championne du monde de ski, Erika Schinegger, ou plus récemment l'athlète sud-africaine, Caster Semenya. En France, la médecine dénombre environ 500 cas de vrais hermaphrodites, avec à la fois un pénis, une prostate, un vagin et un utérus.